Bienvenue dans l'échange. Aujourd'hui, on se penche sur une situation historique un peu folle. Imaginez remporter un triomphe électoral absolu pour réaliser soudain que vos adversaires ont tout simplement refusé de participer.
Ouais, c'est sûr que ça enlève un peu de saveur à la victoire.
Totalement. Et c'est exactement le paysage politique de l'Espagne en août 1872, sous le règne du roi Amédée Ier. Le parti radical démocrate de Manuel Ruiz Zorrilla rafle une majorité écrasante avec 274 sièges sur 424.
Presque 70% des suffrages, ouais. Un peu plus d'1 300 000 voix pour eux.
Voilà. Et la question centrale de notre débat d'aujourd'hui, c'est de savoir si cette élection représente une véritable avancée vers un scrutin libre et assaini, ou si c'est juste une illusion démocratique qui masque l'effondrement du régime. Moi, je suis convaincue que le gouvernement a mené une réforme très sincère.
Et de mon côté, je suis plutôt convaincu que l'absence délibérée de l'opposition a complètement vidé ce scrutin de toute sa légitimité.
Alors, il faut vraiment comprendre où l'on venait à ce moment-là. Le système était complètement gangréné. Le précédent gouvernement, celui de Sagasta, venait de s'effondrer à cause d'un scandale financier, enfin, ahurissant.
Ah oui, le fameux détournement.
Exactement, l'affaire de la Caja de Ultramar. Ils avaient détourné les fonds d'une caisse d'épargne coloniale pour financer secrètement leur propre campagne électorale. Donc quand Zorrilla arrive au pouvoir, il veut une vraie rupture. Il nettoie tout ça. Il interdit formellement aux gouverneurs de province d'imposer des candidats officiels et il corrige les listes électorales qui avaient été purgées arbitrairement. C'est un effort institutionnel majeur, je trouve, pour rendre le pouvoir aux urnes.
Je comprends tout à fait votre raisonnement. Et l'effort de Zorrilla est, disons, louable. Mais ce nettoyage institutionnel, il sert strictement à rien si on joue tout seul.
Comment ça, tout seul?
Eh bien, les radicaux célèbrent leur majorité, mais c'est une élection fantôme en réalité. Les élites conservatrices, donc les constitutionnels et les alfonsistes, ont utilisé ce qu'on appelle le retraitamiento.
Le boycott, oui.
C'est ça. Et c'est pas juste une petite bouderie politicienne. Au XIXe siècle, c'est une arme stratégique redoutable. En boycottant massivement les urnes, ils privent délibérément le régime de légitimité. Leur but, c'est de prouver au roi que son parlement ne représente plus du tout le pays réel.
Oui, enfin, vous parlez d'un parlement qui ne représente rien, mais vous ignorez complètement la réalité populaire de ce scrutin.
C'est-à-dire ?
Près de 2 millions d'hommes, 1 900 000 pour être tout à fait précise, se sont déplacés pour déposer un bulletin dans l'urne. Le calcul politique d'une élite qui refuse de jouer le jeu, ça n'efface pas cet élan citoyen énorme qui était garanti par le suffrage universel masculin de la Constitution de 1869.
Je vois l'idée.
Pour moi, c'est vraiment la naissance, certes très douloureuse, du parlementarisme moderne en Espagne. Plutôt que de ne voir que les absents, regardons ces 2 millions d'électeurs.
2 millions de votants, d'accord. Mais dans un pays qui est littéralement en train de se disloquer. Ce boycott, il dépasse largement les petits salons madrilènes.
La situation était tendue, oui.
Très tendue. Une partie entière du pays a remplacé les bulletins de vote par des fusils. Les carlistes ont carrément préféré déclencher une guerre civile plutôt que de participer à ces élections. Et si l'on regarde hors de la péninsule, c'est encore pire.
Vous parlez des colonies.
Exactement. À Cuba, la guerre des 10 ans empêche tout vote. Résultat, 18 sièges restent vacants. Et puis, la seule faction républicaine qui participe, la faction dite bienveillante, obtient à peine 78 sièges. Ce système, il ne tenait que sur un fil.
Je vous arrête là-dessus. On ne peut pas utiliser une guerre coloniale ou un soulèvement armé pour invalider le mécanisme démocratique qui a été mis en place en métropole. Le fait même que Zorrilla parvienne à maintenir des élections générales pendant que le pays affronte la menace carliste, c'est un véritable tour de force.
Un tour de force qui a fait long feu, non?
Pas au niveau institutionnel. Regardez comment la machine constitutionnelle a été pensée. Le système colégislatif n'était pas qu'une façade. On avait 406 députés élus au scrutin majoritaire uninominal et 200 sénateurs au suffrage indirect. L'objectif, c'était vraiment d'équilibrer l'ancrage local avec la stabilité nationale.
Ouais.
Maintenir cette ingénierie complexe en pleine crise, ça prouve au contraire un véritable dévouement aux institutions.
Alors c'est une ingénierie brillante sur le papier, je vous l'accorde volontiers.
Merci.
Mais une mécanique, aussi sophistiquée soit-elle pour équilibrer les pouvoirs, elle tourne pas dans le vide. La preuve irréfutable que ce laboratoire démocratique a échoué, c'est l'implosion qui a suivi presque immédiatement.
Les mois suivants ont été rudes, c'est vrai.
Rudes. Cette majorité qu'on disait solide, elle a servi à rien face à la rue et aux armes. En février 1873, soit à peine 6 mois plus tard, le roi Amédée Ier, contesté de toutes parts, finit par abdiquer. Ces élections n'ont fait qu'accélérer la chute vers la Première République espagnole.
Je pense que ce qui est indéniable, c'est que ce mois d'août 1872 marque un point de rupture vraiment fascinant. On a d'un côté une tentative sincère de régularité électorale et de modernisation.
Et de l'autre, la démonstration brutale qu'une victoire éclatante dans les urnes, ça vaut rien si la société est fracturée et que l'opposition a déserté l'hémicycle.
Exactement. C'est toute la tension de ce moment historique. La légitimité d'une élection se mesure-t-elle à l'intégrité de ses procédures ou à l'acceptation de ses résultats par l'opposition ? C'est une vaste question et nous vous laissons sur cette réflexion.